Seigneur, tu es Dieu, Seigneur de gloire. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu sois notre chef. Seigneur de gloire, nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que les choses ne sont pas toujours faites, Seigneur Dieu de gloire, pour te glorifier. Nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que à maintes reprises, Seigneur de gloire, nous avons manifesté, Seigneur de gloire, que nous étions notre propre chef. Mais nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous réalisons, Seigneur, que lorsque l'homme cherche à dominer, que lorsque l'homme cherche à diriger les choses, Seigneur, cela ne produit que la mort. Seigneur de gloire, nous voulons que vraiment tu sois notre chef, que tu diriges toutes choses, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Père de gloire, afin que nous puissions discerner et comprendre quelle est ta volonté en tout temps, en toutes circonstances. Seigneur de gloire, tu vois combien de choix que nous avons faits sans t'associer, Seigneur, sans te consulter. Combien de fois, Seigneur, nous nous sommes trouvés dans des tourments, dans des complications, Seigneur de gloire, parce que nous avons refusé, Seigneur, de te laisser diriger les débats. Seigneur de gloire, toutes les fois nous avons cherché à être notre propre chef, nous avons été déçus, Seigneur de gloire. Et le monde encore nous l'enseigne, Seigneur. Nous voyons tant de souffrances, Seigneur de gloire, qui sont dues, Seigneur, à l'égoïsme de l'homme, qui cherche à résoudre les problèmes avec sa propre intelligence, Seigneur, mais qui ne fait que s'enfoncer. Seigneur de gloire, nous nous sommes enfoncés dans nos péchés. Nous nous sommes enfoncés dans des situations, Seigneur, parce que nous avons refusé de t'écouter. Nous avons refusé de faire de toi notre priorité, de rechercher premièrement ton désir, de rechercher premièrement quelle était ta volonté, Seigneur. Nous avons été, Seigneur de gloire, trompés par nos ambitions personnelles. Nous avons été trompés par des motivations égoïstes. Seigneur de gloire, nous voulons ce soir être restaurés, Seigneur. Nous voulons ce soir, Seigneur, te redonner la première place, Seigneur, dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments, Seigneur, nous voulons que tu sois notre Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi. Car nous savons, Seigneur, nous réalisons une fois de plus que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel. Tu as dit dans ta parole que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, nous venons encore à toi, Seigneur. Accepte-nous, reçois-nous, Seigneur de gloire, tel que nous sommes. Toi qui as la capacité, la puissance de transformer les vies, de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à ta volonté. Dans le nom de Jésus, chasse loin de nous, Seigneur de gloire, tout parasite, Seigneur, qui nous embrouille, qui nous empêche de discerner ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, nous te bénissons encore pour la grâce que tu nous fais, Seigneur de gloire, en permettant que nous puissions nous réunir, Seigneur, autour de ta parole, que nous puissions nous réunir, Seigneur, en ta présence. Merci pour ta fidélité, toi qui es Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous prenons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. La Bible dit à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne le sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Alors le Seigneur va écrire sur les tables la loi qu'il redonne à Moïse afin que Moïse puisse le communiquer au peuple et que ce peuple puisse le communiquer à la descendance, afin que ses paroles soient gravées dans les cœurs, afin que ses paroles touchent toutes les générations futures. Le Seigneur dit à son peuple, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » L'Égypte, pour son peuple, représentait le lieu où ils avaient été en captivité, où ils avaient vécu comme des esclaves. L'Égypte représentait comme un cauchemar pour son peuple, représentait une prison, représentait l'enfer. Et Dieu dit, c'est moi qui vous ai fait sortir de ce lieu-là. Et puisque je vous ai délivré, voici les commandements que je vous demande de pratiquer. Nous avons été dans le monde. Nous avons été captifs de l'alcool, du tabac, de certaines drogues. Nous avons été esclaves du monde, esclaves de la mode, esclaves de la violence. Et Dieu nous en a délivrés. Et les commandements qui étaient valables pour Israël, ce sont des commandements qui sont valables pour nous. Dieu dit, c'est moi qui vous ai fait sortir du monde. Et parce que je vous ai délivré, alors vous n'aurez pas un autre Dieu que moi. Le Seigneur voulait que le peuple comprenne que lui seul devait être la priorité. Lui seul devait passer avant toute chose. Ce qui était depuis le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu voulait être la priorité pour Adam. Dieu voulait que Adam et Ève ne se suffisent qu'en Dieu, qui n'est que pour tous Dieu seul. Ils ont trahi le Seigneur, ils ont péché contre Dieu, en voulant être eux-mêmes leur propre chef, en mangeant du fruit de l'arbre interdit, pour avoir la connaissance comme Dieu, pour être comme Dieu. Nous voyons à travers l'histoire, lorsque Israël n'avait que pour roi que Dieu seul, ils ont voulu avoir aussi un roi comme les autres nations. Ils ne voulaient plus être soumis à la volonté de Dieu. Ils ne voulaient plus être esclaves de la volonté de Dieu. Ils ont dit à Samuel, donne-nous aussi un roi comme les autres nations. Et Dieu avait bien compris en disant à Samuel, en réalité c'est moi qu'ils refusent. C'est de moi qu'ils ne veulent plus. Et cette histoire s'est répétée lorsque nous lisons le livre des Juges. Nous voyons combien de fois le Seigneur a voulu être la priorité de son peuple. Mais son peuple s'en est allé se prosterner devant d'autres dieux. Alors Dieu envoyait des fléaux, envoyait d'autres peuples pour persécuter Israël. Et le même procédé se répétait lorsque Dieu cherchait à être le seul Dieu, le véritable Dieu de son peuple. Lorsque Dieu voulait être la priorité de son peuple finissait par se détourner de lui et faire de Dieu quelque chose de secondaire, quelqu'un de secondaire. Il ne voulait plus que Dieu soit la priorité. Et ce schéma dans lequel était le peuple d'Israël, c'est le même schéma dans lequel quelquefois nous sommes aujourd'hui. Tantôt nous louons Dieu, tantôt nous avons une vie exemplaire. Et avec le temps, on finit par baisser la garde et le Seigneur ne devient plus notre priorité. Tantôt la priorité est Dieu, parce que les épreuves sont grandes, parce que les difficultés sont grandes. Là, on n'oublie pas de crier à Dieu, on n'oublie pas de jeûner. Mais lorsque tout va bien, les rôles sont inversés, Dieu n'est plus la priorité. Le Seigneur voulait à chaque fois avec son peuple restaurer les choses comme il était dans le jardin d'Éden, la priorité de l'homme. Et c'est ce choix de priorité, bien-aimé, c'est un choix de chaque jour dans lequel Dieu nous appelle. C'est un choix de chaque jour dans toutes circonstances dans lequel le Seigneur veut toujours être le premier. Combien de fois, bien-aimés, nous avons eu des expériences personnelles, ne serait-ce qu'en regardant notre vie passée lorsque Dieu n'était pas le chef. Dans combien de tourments, dans combien de problèmes nous nous sommes retrouvés sans solution. Combien de fois encore aujourd'hui lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque Dieu n'est pas la priorité, bien-aimés. Dans combien de problèmes nous nous sommes retrouvés parce que nous n'avons pas cherché quelle était la volonté primaire de Dieu. Nous n'avons pas cherché. Qu'est-ce que le Seigneur attendait de nous aujourd'hui? Mais nous nous sommes laissés entraîner par les soucis du monde. Nous nous sommes laissés entraîner par les objectifs personnels, par le plan personnel. Or, la Bible dit que Dieu a pour nous un plan de bonheur, un plan de paix, un avenir avec de l'espérance, non un avenir de malheur. Et cet avenir-là, Dieu l'a déjà planifié. Mais nous pouvons le vivre pleinement si nous acceptons de faire confiance à Dieu le jour au jour. Si chaque jour nous acceptons de mettre notre confiance dans le Seigneur en faisant de lui notre priorité. Combien de choix bien-aimés nous avons fait en mettant Dieu au second plan parce qu'on recherchait l'intérêt de notre femme, l'intérêt de notre mari, l'intérêt de notre famille. Combien de fois nous n'avons pas fait la volonté de Dieu parce que nous avons regardé à notre propre personne. Lorsque le Seigneur nous demandait de bénir, lorsque le Seigneur nous demandait de pardonner, mais nous avons mis notre orgueil en avant. Et nous avons mis Dieu au second plan, nous avons mis sa parole au second plan. Et aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes, nous sommes dans des complications, nous sommes quelquefois dans des situations dans lesquelles nous ne voyons pas d'issue. Parce que les choix que nous avons faits, nous n'avons pas consulté Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui s'étaient fait une image du mariage, un conte de fées, comme dans les dessins animés bien-aimés. Ils avaient déjà tout prévu, ils avaient déjà tout imaginé. Et au moment où ils faisaient le choix de se marier, ce n'était pas pour être agréable à Dieu. Ce n'était pas pour entrer dans le plan de Dieu, mais c'était pour satisfaire la chair. Parce que ma femme plaît à ma mère, parce que mon mari plaît bien à mon père. Tout était fait pour satisfaire la chair. Et combien de personnes aujourd'hui souffrent? Combien de personnes aujourd'hui pleurent? Parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Il n'est pas assez beau pour moi. Elle n'est pas assez belle pour moi. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Et on choisit en fonction des critères physiques. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans des problèmes. Parce que la priorité n'était pas de faire la volonté de Dieu. La priorité était de se satisfaire. La priorité était d'entrer dans les normes du monde. Bien-aimés, combien de personnes ont failli mourir? Parce qu'on voit à la télé, on donne des mensurations pour dire que c'est ça top modèle ou bien la femme idéale. Combien de gens ont failli mourir en voulant se mettre un anneau autour de l'estomac? J'ai connu personnellement des personnes qui me l'ont témoigné. Simplement pour perdre des kilos, se faire opérer bien-aimé. Ce n'était pas utile, ce n'était pas obligatoire. Mais pour être à l'image de ce que le monde attend de nous, au lieu de rechercher d'être à l'image de ce que Dieu attend de nous. Beaucoup ont failli perdre la vie. Et certainement, certains l'ont perdu aussi. En voulant se conformer au monde. Et en refusant de rechercher qu'est-ce qui est agréable premièrement à Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 36. La Bible dit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Bien-aimés, le Seigneur lui-même nous montre l'exemple. Il connaissait la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Il était venu souffrir et mourir pour nous. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens, dans Philippiens 2, versets 8 à 9, qu'il était égal à Dieu. Il avait la même autorité de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas fait de cela comme une proie arrachée. Il a renoncé à son droit afin d'aller mourir à la croix pour que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse. Pourtant, il avait le droit, il avait le choix d'arrêter la mission. Il savait pourquoi il était venu. Alors, au moment où les païens, les pécheurs viennent le chercher pour le crucifier, la Bible nous dit que le Seigneur priait. Il a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Lorsqu'il revint, il voit ses disciples endormis. Il a prié en disant, mais Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur est venu sur la terre avec les pleins pouvoirs. La Bible dit qu'il était revêtu de la plénitude de Dieu. Il avait autorité sur toute chair. Il dit, personne ne m'ôte la vie, j'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il avait le pouvoir absolu. Mais il a préféré renoncer à lui et de faire de sa priorité la volonté parfaite de Dieu. Il demande à ses disciples de veiller. Les disciples se sont endormis. Le Seigneur les avait avertis, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Le Seigneur leur avait donné cet ordre. Ce n'était pas le temps de dormir, c'était le temps de prier. Bien-aimés, combien de fois, lorsque la volonté de Dieu est claire, lorsque les messages que nous entendons sont clairs, et que Dieu nous demande de nous mettre à part dans la prière, dans le jeûne, que Dieu nous demande de nous mettre à part en nous sanctifiant, mais que nous passons notre temps à nous distraire dans les disputes, dans les querelles, dans les murmures, dans les discussions du voisinage. Combien de fois lorsque la parole de Dieu est claire, mais que nous ne faisons pas notre priorité? Le Seigneur montrait l'exemple à travers sa vie entière. Lorsque les disciples allaient manger, qu'ils s'étonnaient de voir que Jésus-Christ ne mangeait pas. Mais le Seigneur expliquait que sa volonté à lui, c'était sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. C'était pour ça qu'il était venu sur la terre, pour faire la volonté de son Père. Bien-aimés, si nous avons accepté, nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que dès ce moment-là, nous avons fait de Jésus-Christ notre priorité. C'est que dès ce moment-là, nous savons quel est notre rôle sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quel est l'objectif final de Dieu pour nous? Et combien de fois, lorsque nous sommes dans une situation où nous sommes dans notre droit et que nous refusons de rejeter ce droit-là pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Nous refusons de faire de Dieu notre priorité. Les disciples se sont endormis, alors que ce n'était pas le moment de dormir. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, car il sait qu'il a très peu de temps. La Bible nous avertit dans le livre de Matthieu que lorsque les temps seront proches du retour du Seigneur, l'iniquité va s'accroître. Les temps seront difficiles. Et à cause de ces choses à venir, il est encore écrit dans Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie davantage. Parce que nous sommes dans le temps où le Seigneur veut que nous puissions nous préparer. Ça doit être notre priorité. Mais cette priorité que le Seigneur nous montre sur du long terme, c'est une priorité bien-aimée que nous devons confirmer chaque jour dans les choix. Le choix que nous avons fait en acceptant de suivre Jésus. Le choix que nous avons fait en confessant que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous l'avons fait une fois pour toutes. Nous l'avons fait sur un point de vue général, en consacrant notre vie. Mais ce que nous avons confessé, nous devons le confirmer chaque jour. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Or, nous savons que la grande chose que nous attendons avec impatience, c'est le retour de notre Dieu. Mais en attendant ce grand événement, il y a les événements de chaque jour dans lesquels nous devons confirmer que Jésus-Christ est notre priorité, dans lesquels nous devons confirmer que c'est réellement Dieu que nous avons choisi comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le Seigneur l'a manifesté par sa vie. Il a montré à ses disciples qu'il n'était pas là pour lui-même. Il n'était pas là à cause de lui-même. Mais il était là à cause de Dieu. Et il était là pour Dieu. Jésus-Christ est venu nous montrer quelle devait être la priorité pour chaque homme. Il y a ceux du dehors qui ne l'ont pas encore compris. Mais il y a ceux comme nous qui avons accepté le Seigneur, qui devons vivre chaque jour en manifestant que Dieu est notre priorité. Je discutais avec un frère aujourd'hui qui m'expliquait, mais je ne peux pas venir au culte pour telle raison, parce que je devais rendre service, parce que je devais aider. Vouloir aider, ce n'est pas ça qui est mauvais. La Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous communique la volonté de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Si le fait d'aider une personne n'est pas mauvaise, et le Seigneur d'ailleurs nous exhorte à le faire, mais si le fait d'aider quelqu'un nous empêche, nous, de faire le travail pour lequel nous avons répondu présent, bien aimé, il y a un problème. Nous devons nous fixer des priorités avec Dieu. Il y a des personnes dans la Bible qui refusaient de se soumettre à leurs parents, qui refusaient d'être disponibles pour leurs parents. Et le Seigneur leur dit, mais vous, vous utilisez les traditions pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Même si le Seigneur doit être une priorité, mais la priorité doit être, je dirais, vécue d'une manière sincère. Lorsque nous discernons que telle est la volonté de Dieu, nous devons aussi, bien aimé, revoir nos motivations. Quelquefois, nous cherchons à faire des choses à l'extérieur pour ne pas accomplir ce que Dieu nous demande de faire, peut-être dans l'église. Quelquefois, nous justifions de venir à l'église parce que nous voulons éviter quelquefois des gens du dehors que Dieu nous demande d'aider. Dans l'un comme l'autre, nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais nous pouvons sortir dans la volonté de Dieu si nous ne veillons pas sur notre motivation. Nous risquons d'inverser les priorités de Dieu si nous ne veillons pas sur notre motivation. Si je fuis la personne simplement parce que j'ai de la rancune, simplement parce que la personne m'a vexé, parce que la personne m'avait mal parlé, et je viens adorer le Seigneur, bien-aimés, nous ne sommes plus dans la priorité de Dieu. Le Seigneur dit, avant de déposer là ton offrande, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord et arrange-toi. Adorer Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons avoir des priorités dans l'œuvre de Dieu. Nous devons comprendre quelles sont les priorités. Nous lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous parle des soucis que l'homme peut rencontrer d'une manière quotidienne. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet du vêtement. Mais il nous demande de faire de lui notre priorité. Il dit que toutes les choses de la terre, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, mais que nous sommes régulièrement en retard pendant les cultes parce qu'il y avait le souci de la chaussure ou du maquillage, bien-aimés, Dieu n'est plus notre priorité. Lorsque nous sommes dans la négligence, bien-aimés, pour des choses secondaires, pour des choses pour lesquelles les païens se tracassent. Et nous, enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans ces mêmes tracasseries qui nous empêchent d'honorer les engagements que nous avons pris avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est que là, le Seigneur n'est plus notre priorité. Nous savons que nous nous sommes engagés, que nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Bien-aimés, même si on n'a pas eu le temps de tracer le crayon, on vient sans le crayon sans problème. Si on n'a pas eu le temps d'attacher la cravate, on vient sans la cravate sans problème. Mais bien de fois, nous sommes en retard pour des choses secondaires, pour des choses pour lesquelles les païens se tracassent aussi. Et ça, ce n'est pas normal. Notre priorité doit être de faire la volonté de Dieu. Notre priorité, comme le Seigneur nous dit, c'est de rechercher premièrement son royaume, de rechercher premièrement sa justice. Le Seigneur doit être notre priorité, bien-aimé. Sortons de la récréation de la maison qui nous tourne la tête, qui nous empêche de voir, de comprendre concrètement ce que Dieu attend de nous. On se perd dans des discussions futiles, dans des discussions inutiles qui nous font perdre du temps. Que le Seigneur soit notre priorité. Que les choses de la terre, bien-aimées, ne viennent pas nous embêter. Dieu n'est plus notre priorité lorsque nous donnons une trop grande valeur aux choses de ce monde. Une petite rayure sur la voiture et c'est le monde à l'envers. Le monde, rien ne va plus. Parce que nous avons donné une trop grande valeur à la voiture. Au lieu de pratiquer la parole à ce moment-là, Nous sommes dans la colère. Nous sommes dans la haine. Parce que le Seigneur n'est plus notre priorité. Lorsque Dieu est notre priorité, bien-aimé, alors on sera comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes venus sans rien. Alors aujourd'hui, nous avons. Nous voulons mettre Dieu au second plan. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Remettons le Seigneur à la place où il doit être. Les gens sont venus pour éprouver le Seigneur en demandant, mais est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Le Seigneur a dit, mais montrez-moi la pièce. Elle est à l'image de qui? À l'image de César. Alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu si c'est lui qui nous a donné la vie? Que le Seigneur soit notre priorité, bien-aimé. Que les choses de ce monde ne nous empêchent pas de louer Dieu. Que les choses de ce monde ne nous empêchent pas de dormir. Lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque nous sommes dans le manque de foi, lorsque nous sommes dans le doute, bien-aimé, tous ces sentiments ne peuvent exister que par rapport au monde. Parce qu'au ciel, ces sentiments-là n'existent pas. Ceux qui sont dans le paradis n'ont plus le doute, n'ont plus la crainte, parce qu'ils sont dans le ciel. Or, nous, nous sommes appelés à manifester la nature du ciel. Donc, quelqu'un qui a la nature du ciel ne sera plus dans ces tracas-là, parce que sa vie n'est pas vécue en fonction de la terre, mais est vécue en fonction du ciel. Donc, celui qui est dans une vie du ciel ne dépend plus des choses de la terre. Mais lorsque nous sommes dans les tourments, lorsque nous sommes dans des choses, bien-aimées, qui nous font mal à la tête, c'est que nous avons encore trop les pieds sur terre. Le monde nous apprend qu'il faut avoir les pieds sur terre, bien-aimés. Nous devons avoir la tête au ciel. Notre vision doit être que par rapport au ciel. Notre vision doit être céleste. La terre n'est qu'un passage. La terre, bien-aimés, n'est qu'une correspondance. On voit, bien-aimés, ceux qui prennent le métro dans Paris. Lorsqu'ils veulent aller dans une direction, ils font correspondance à un endroit donné. Mais l'endroit donné n'est pas le terminus. Ce n'est que l'endroit qui va les permettre d'arriver jusqu'au bout. Et nous, nous sommes sur la terre comme passagers. La terre n'est qu'un terrain de correspondance pour arriver au ciel. Que le Seigneur soit notre priorité. Jésus-Christ avait pour trésorier un voleur. Judas était un voleur, mais c'était le trésorier. Mais le Seigneur n'était pas attaché à l'argent. Son problème n'était pas l'argent. Son problème était l'objectif pour lequel il était venu, de faire la volonté de Dieu. C'était ça sa priorité. Il n'avait pas le temps de s'arrêter sur les choses futiles. L'apôtre Paul exhorte Tite, exhorte Timothée à ne pas s'attarder dans des vains discours qui ne font naître que des querelles, mais à s'attacher à Dieu seul, à s'attacher à l'objectif de Dieu. Que le Seigneur soit notre priorité, bien-aimée. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Toutes les choses de cette terre passeront. Certains ont fait de leur travail, de leur emploi la priorité. Je le disais cet après-midi à un frère, un chrétien ne vit pas du travail. Un chrétien vit de Dieu. Le travail n'est que le moyen que Dieu donne pour pouvoir vivre selon ce monde. Mais un chrétien ne doit pas dépendre de son travail. Il ne doit pas être attaché à son travail comme si c'était la solution ultime pour vivre. Un chrétien vit de Dieu. Lorsque, bien-aimé, Dieu n'est plus notre priorité, c'est normal que beaucoup entrent dans des compromis. Parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre leur travail. Ils ne sont pas prêts à perdre leur statut dans la société. Parce que Dieu n'est pas la priorité. Mais celui dont qui Dieu est la priorité, bien-aimé, même si on l'enlève du travail pour lui, ce n'est pas un problème. Parce qu'il sait qu'il ne vit pas de ça. Il sait que c'est Dieu qui le fait vivre. Mais lorsque toutes ces choses-là sont en avant, bien-aimé, c'est normal que nous entrons dans des compromis. C'est normal que l'on monte un petit peu parce que le patron nous l'a demandé. C'est normal que l'on cherche à être agréable à ses collègues d'une manière charnelle, parce qu'on veut être à l'aise dans son travail. On échange la vérité pour être à l'aise. Mais à ce moment-là, Dieu n'est plus la priorité. Que le Seigneur prenne la place que nous lui avons donnée lorsque nous avons confessé qu'il était notre Seigneur et notre Maître. Avec le temps, on l'oublie. Avec les soucis de la vie, on l'oublie. Mais que la place de Dieu en tant que roi sur notre vie soit restaurée. Nous lisons Luc chapitre 10. Un exemple bien-aimé qui nous montre quelquefois pourquoi nous avons du mal à discerner quelle est la priorité de Dieu. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui sont comme, vous savez, lorsque on prend la route pour aller à un endroit donné, peut-être qu'on n'a pas de carte ou on n'a pas de GPS. À un moment donné, on arrive à un carrefour et on ne sait pas où aller. Et je ne sais pas si, je crois que c'est déjà arrivé peut-être à ceux qui conduisent, lorsqu'on a affaire à une personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle va, pendant que nous sommes derrière, il met le clignotant à droite, après il revient à gauche parce qu'il est perdu. Et souvent lorsque nous regardons l'immatriculation, nous voyons que c'est une personne d'une autre région, parce qu'il ne sait pas où il va. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent quelquefois à des carrefours, où ils doivent faire des choix, mais ils ne savent pas discerner quelle est la priorité de Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Dieu est amour. Et le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous perdre. Le Seigneur nous a sauvés pour nous amener dans une direction donnée. Il a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et nous savons que Dieu n'est pas un menteur. Et bien de fois, nous sommes confrontés à faire des choix où quelquefois, nous ne savons pas discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la priorité de Dieu. Alors, on ne répondra peut-être pas à tout, mais on essaiera de donner quelques arguments. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marthe et Marie vont faire deux choses différentes. L'une va être occupée aux soins domestiques, pendant que l'autre va être au pied du Seigneur pour écouter la parole. Marie a fait de la parole de Jésus-Christ sa priorité. Marthe a fait du côté hospitalité sa priorité. Mais nous voyons que le Seigneur a confirmé que c'est Marie qui avait choisi la bonne part. C'est Marie qui avait su discerner quelle était la priorité du maître à ce moment-là. Nous sommes dans une société bien-aimée à cette époque-là, comme ça l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays orientaux, où l'hospitalité est très importante. Lorsque les gens venaient à cette époque-là qui marchaient avec des sandales, on leur donnait des bassines d'eau pour se laver les pieds. L'hospitalité était quelque chose de très très important. Marthe était dans un schéma. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des schémas en se disant que la vie chrétienne c'est comme ça. À telle heure c'est comme ça. À telle autre heure c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens vivent comme un robot qui est programmé. À telle heure il doit faire telle chose. À telle heure il doit faire telle chose. Et lorsque nous sommes fermés dans un schéma, bien-aimés, nous ne pouvons plus être attentifs à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons plus être attentifs à la priorité de Dieu. Parce que j'ai toujours fait les choses ainsi. Alors forcément, ça doit marcher ainsi. Et lorsqu'on est programmé, d'une manière, c'est normal que nous ne sachons plus faire la priorité. Il y a des personnes, lorsqu'on donne des conseils, disent non, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, donc ça sera comme ça. Ils sont conditionnés dans un schéma. Et lorsqu'on est conditionné dans un schéma, bien-aimé, on ne va plus discerner la priorité de Dieu à un moment donné. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit n'est plus dans un schéma. Il est dans le schéma de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit l'amène où il veut, à tout moment. Mais lorsque nous sommes crispés dans un schéma, c'est normal que lorsque Dieu nous demande de faire un choix, qu'il attend de nous un choix, c'est normal que nous n'arrivons pas à discerner quelle est la volonté de Dieu maintenant. Parce que nous avons pris l'habitude de marcher d'une manière, et lorsque les choses ne sont plus ainsi, tout change. Lorsqu'on a l'habitude de prendre un chemin, je discutais avec une sœur dimanche qui a failli arriver en retard au culte parce qu'elle n'est pas de la région, donc lorsqu'elle vient, elle a un chemin défini. Malheureusement, ce jour-là, il y avait des travaux. Comme il y avait des travaux, il fallait emprunter une déviation. Et pendant une demi-heure, elle tournait en ville. Parce qu'elle avait un schéma. Pour elle, elle arrivait au centre par cette rue-là. La rue a été fermée, et bien elle était totalement perdue. Et beaucoup de chrétiens qui ont pris l'habitude de fonctionner d'une manière ne font plus attention à la voix du Seigneur lorsque Dieu demande de faire autrement. Ils se sentent rassurés en empruntant toujours la même voie. Mais emprunter une seule voie et se sentir rassuré ainsi, bien-aimé, nous enlève la foi. Ainsi, lorsque Dieu nous fait passer par d'autres chemins, nous sommes perdus. Nous sommes tremblants, nous sommes dans le doute. Parce que ça devient un univers, ça devient comme une voie inconnue. Or, la Bible nous demande de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Or, celui qui marche par la foi ne dépend plus de ses sens. Il ne dépend plus de la vue. Il ne dépend plus du toucher. Mais il dépend de Dieu entièrement. Marie avait choisi la bonne part. Sa priorité, c'était la soif qu'elle avait de Dieu. C'était l'amour qu'elle avait de Dieu. Elle était à la bonne place. Parce qu'en entendant les paroles de Jésus, pour elle, c'était plus qu'autre chose. C'était ça qui l'emportait. Ce que Marthe avait fait n'était pas mauvais. Mais le Seigneur lui a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Le Maître est là. Il ouvre la bouche. Et toi, ce que tu trouves à faire, c'est d'aller t'occuper des choses domestiques. Marie avait choisi la bonne part. Je discutais avec un de mes collègues qui me racontait certaines anecdotes de sa jeunesse lorsqu'il était en Afrique. Vous savez, en Afrique, quelquefois, dans un quartier, il est possible qu'il y ait peut-être deux ou trois maisons seulement qui ont la télévision. Alors ceux qui n'ont pas la télévision viennent quelquefois à la fenêtre. On laisse la fenêtre ouverte et ceux qui n'habitent pas dans la maison sont à l'extérieur pour regarder peut-être l'émission ou bien le match qu'ils attendaient. Et lui expliquait qu'il n'avait pas la télévision chez lui. Donc ils étaient tous là à attendre l'événement, le match qui devait passer. Et quand bien même sa mère l'appelait pour venir manger, il ne voulait pas quitter la place. Parce qu'il savait que s'il quitte la place, un autre enfant prenait sa place. Pour lui, il était là, il fallait qu'il suive le match, il ne fallait pas qu'il rate. Et Marie était dans cette attente-là, en entendant le maître parler. Il ne fallait que rien ne l'empêche d'entendre ce que le Seigneur voulait lui dire. Combien de personnes aujourd'hui restent alitées à la maison pour des choses secondaires? Un petit problème à la maison au lieu d'arranger. Contrarié, on préfère rester à la maison. Alors que les frères se réunissent. Alors qu'il y a un enseignement à recevoir. Pour des choses de la vie, pour quelque chose que l'on refuse d'arranger, on se prive de la parole de Dieu. Marthe avait choisi la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Parce que c'était le maître qui l'enseignait. C'était la parole de Dieu qu'elle allait recevoir. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup de chrétiens passent à côté des bénédictions de Dieu parce que Dieu n'est pas leur priorité. Combien de personnes ratent des bénédictions de Dieu parce qu'il est midi. À midi, c'est l'heure de manger. Alors combien même la prédication n'est pas finie, tranquillement, il longe le mur, il rentre chez lui. Il y a des personnes qui ont raté des bénédictions. Alors qu'il y a une parole pour lui, comme c'est arrivé, bien-aimé. Un pasteur recevait une parole prophétique pour un frère pendant que nous étions dans la prière. Ce pasteur-là priait, donc il avait les yeux fermés. Au moment où il ouvre les yeux pour donner cette parole à ce frère-là, le frère avait déjà disparu de la place. Et c'est ainsi que beaucoup ratent des bénédictions. Parce que Dieu n'est pas leur priorité. Le Seigneur doit être notre priorité, bien-aimé. Lorsque nous nous réunissons, considérons que le Seigneur a quelque chose pour nous individuellement. Que le Seigneur a prévu quelque chose pour nous individuellement. Si c'est le Dieu des autres, si le Seigneur ne parle qu'aux autres, c'est normal, bien-aimé, que avant la fin du culte, on s'en aille. Parce que inconsciemment, on se dit, bon, le peu que j'ai entendu, j'ai compris le message. Je ne parle pas, bien-aimé, de ceux qui ont de véritables raisons. Je parle de, sont de les motivations ne sont pas saines. Peut-être parce qu'ils ont faim ou bien ils sont invités à manger. Bien-aimé, le Seigneur doit être notre priorité. N'échangeons pas notre rôle. Qu'est-ce qu'il est convenable de faire aujourd'hui? Combien de personnes bien-aimées ont raté des moments de communion fraternelle parce qu'ils préparent la fête du lendemain à cause du vêtement, à cause de la nourriture à préparer? On va rater ce que le Seigneur nous a promis. Bien-aimé, c'est que le Seigneur n'est pas notre priorité. Et ce sont des choses qu'on voit régulièrement chez nous les chrétiens. De la même manière que les païens languissent après les fêtes. On voit aussi des chrétiens qui courent de gauche à droite. Alors que Dieu les attend quelque part. Que le Seigneur soit notre priorité, bien-aimé. Il n'y a rien de ce monde qui vaille mieux que Jésus-Christ. Si le Seigneur nous a aimés, qu'il est mort pour nous, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons faire en retour que de vivre sa parole telle qu'il nous la donne? Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Moi, je prie à la maison. De toutes les manières, moi, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Mais il est aussi écrit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Sortons des schémas, bien-aimés. Que le Seigneur soit notre priorité. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, beaucoup de chrétiens utilisent quelquefois ce passage-là pour se rebeller devant Dieu. Seigneur, il est écrit, mais je fais de toi mes délices, mais je ne reçois pas ce que mon cœur veut. où beaucoup cherchent à faire de Dieu comme une sorte de priorité, mais en contrepartie, il attend quelque chose. Ce n'est pas ça faire de Dieu notre priorité. Celui qui est un avec Dieu, comme nous lisons 1 Corinthiens 2, au verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » L'homme spirituel juge de tout. La Bible dit qu'il n'est pas instruit parce qu'il a la pensée de Dieu. Donc Dieu lui communique la pensée parce que le Saint-Esprit vit en lui. Il sait discerner ce que Dieu attend de lui aujourd'hui. Et c'est cet homme-là qui fait de Dieu en réalité ses délices. Parce que lorsqu'on dit de faire de Dieu ses délices bien-aimés, ça sous-entend de faire que nous puissions être un avec Dieu, que nous puissions fusionner avec Dieu. Et comme le Seigneur est notre priorité, comme le Seigneur règne librement en nous, en réalité, ce que notre cœur désire est communiqué par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est désiré d'une manière charnelle, mais c'est un désir que Dieu nous communique. Et que quelquefois, lorsque nous prions et que Dieu nous exauce rapidement, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est cette volonté-là par rapport à une chose quelconque que Dieu a mis en nous pour que nous puissions prier parce que Dieu voulait nous en bénir. Et nous recevons la chose. Faire de l'Éternel notre délice bien-aimé, ce n'est pas une monnaie d'échange. Seigneur, j'ai fait ça, mais en contrepartie, tu me donnes ça. Qui a connu la pensée de Dieu ? Celui qui est homme spirituel a la pensée de Dieu. Et automatiquement, il fera de Dieu ses délices. Et en faisant de Dieu notre délice bien-aimé, mais c'est logique que nous puissions discerner quelle est sa volonté. C'est logique que nous puissions discerner quelle est la priorité de Dieu pour aujourd'hui. Parce que nous sommes un avec lui. En marchant dans l'obéissance, nous faisons un avec Dieu. En nous soumettant à sa parole, nous faisons un avec Dieu. Et c'est normal que Dieu puisse nous communiquer les choses. C'est normal que Dieu puisse nous révéler les choses. Parce que nous avons fait de lui notre délice. Ainsi, lorsque nous sommes dans des situations, bien-aimés, quand bien même ça peut nous arriver de nous tromper, le Seigneur nous rattrapera et nous montrera quelle est la véritable voie à suivre. Quelle est la priorité que nous devons faire pour lui aujourd'hui. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 37. Nous lisons même à partir du verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Bien-aimés, le Seigneur est clair. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui peuvent être compliquées quelquefois. Lorsqu'on lit certaines prophéties dans l'Apocalypse, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Mais tout ce qui est pour notre salut, tout ce qui est lié à la question du salut directement, le Seigneur nous l'a rendu clair. Et il nous dit clairement que nous devons l'aimer plus que tout. Plus que notre mari, plus que notre femme, plus que nos enfants, il doit être au-dessus de tout. Et il finit par dire qu'il doit être aussi au-dessus de nous-mêmes. Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur est clair. L'amour que nous devons avoir pour lui doit être un amour total. C'est en aimant Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, que nous pourrons bien discerner quelles sont les priorités de Dieu pour notre vie. Ainsi, bien-aimés, quelquefois nous sommes confrontés à faire des choix, mais nous sommes pris par les sentiments. Les sentiments nous empêchent de prendre la bonne, décision. Le sentiment, bien-aimé, ça peut être la peur, ça peut être la crainte, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais si je ne fais pas ça, on va dire que j'abandonne ma famille. Mais si je ne fais pas ça, on va dire que je suis extrémiste. Si je fais comme ça, ça va être compliqué. Mais lorsque nous aimons Dieu plus que tout, bien-aimé, même des situations difficiles, même quand ce n'est pas facile de dire non, par amour pour Dieu, on dira non. Quand ça ne sera pas évident de dire oui, par amour pour Dieu, on dira oui. Parce que nous aimons Dieu plus que tout. Le Seigneur a dit à son peuple, « Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est à moi seul que tu dois la vie. Et c'est à Dieu seul que nous devons la vie, en effet. » Nous devons aimer Dieu plus que tout. Celui qui aime Dieu, bien-aimé, il comprendra aussi Dieu. Nous voyons dans l'évangile de Jean, comment Jean parle de l'amour de Jésus. Et nous savons, bien-aimé, que c'est ce disciple-là qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était tellement proche de son maître qu'il le comprenait. C'est pourquoi il a bien parlé de son amour. Celui qui aime beaucoup Dieu comprendra aussi ce que Dieu attend de lui. Celui qui aime beaucoup Dieu comprendra que non, si le Seigneur était là, il ne permettrait pas que je fasse les choses comme ça. Celui qui aime beaucoup Dieu comprendra aussi le Seigneur. Nous voyons, bien-aimés, qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, quelquefois, sont divisés avec leurs enfants. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, lorsqu'il n'y a pas d'acte d'amour échangé. Et sont surpris de voir, quelquefois, le comportement des enfants. Sont surpris de voir, des réactions des enfants. Parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de dialogue. Ça, ce n'est pas l'amour que Dieu attend dans une famille. Mais dans le véritable amour bien-aimé, on sait même quoi offrir à l'autre sans qu'il nous le demande. Lorsqu'on aime, on connaît la personne. Aimer Dieu bien-aimé nous aidera à discerner et à comprendre quelles sont les priorités de Dieu. Jean chapitre 10. Verset 1er, la Bible dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et le brebis entend de sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Mes brebis me connaissent. Mes brebis connaissent ma voix. Elles n'iront pas vers des étrangers parce qu'elles connaissent ma voix et ne connaissent pas la voix des étrangers. Celui qui est né de Dieu, celui qui a pour berger Jésus-Christ, connaîtra la voix de son berger. Bien-aimés, nous pouvons discerner quelle est la priorité de Dieu si nous sommes des gens qui sont habitués à obéir à la voix de Dieu. Plus nous obéissons à la voix de Dieu, plus nous apprenons à discerner la voix de Dieu. Nous voyons à l'exemple de Samuel. Lorsque Dieu l'a appelé, à deux reprises, il ne comprenait pas. La Bible dit, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. La voix de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais en ayant cette habitude-là d'écouter le Seigneur et de mettre en pratique ce que Dieu lui demandait, il a pu discerner la volonté de Dieu lorsque Dieu lui demandait de proclamer des jugements sur son peuple, d'aller voir les rois pour donner sa parole. Il savait que là, c'est Dieu qui parlait. Mais lorsque nous sommes dans la désobéissance, où nous obéissons à Dieu un coup sur deux, c'est normal, bien-aimé, que nous hésitons quelquefois. Lorsque Dieu parle, nous ne sommes pas certains, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Et nous ne pouvons pas fixer des priorités. Parce que nous ne sommes pas habitués à l'obéir. Nous ne sommes pas habitués à entendre sa voix et à la mettre en pratique. Oh, le Seigneur dit que mes brebis connaissent ma voix. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous tromper. Combien de personnes ont suivi des voies étrangères? Combien de personnes aujourd'hui soutiennent des faux bergers qui disent que l'enlèvement n'aura pas lieu? Nous pouvons accepter, bien-aimés, que quelquefois par le manque de connaissances, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais il y a des points fondamentaux dans la Bible qu'on ne peut pas toucher. Un pasteur qui dit que l'enlèvement n'aura pas lieu, bien-aimé, c'est quelque chose de grave. Parce que la doctrine chrétienne est soutenue par cette promesse. Et beaucoup suivent ce genre de pasteur. Oh, le Seigneur dit que mes brebis à moi connaissent ma voix. Il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et nous voyons des milliers et des milliers de personnes suivre et se faire appeler chrétiens. Le Seigneur dit clairement que mes brebis n'iront point vers des étrangers. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien-aimé, c'est un étranger, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui apprend à écouter la voix de Dieu, celui qui apprend à obéir à la voix de Dieu, saura discerner quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui, saura discerner quelle est la priorité de Dieu pour lui aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Bien-aimé, sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas besoin de conviction. Il y a des personnes, lorsque tu parles, il faut que Dieu me convainc. Bien-aimé, comment Dieu va nous convaincre sur quelque chose qui est déjà écrit? Certains sont dans le concubinage. Mon frère, il faut régler la situation, il faut te marier. Il faut que Dieu me convainc. Bien-aimé. Pour sortir du péché, il faut que Dieu nous convainc. Ça, c'est quelque chose de grave. Le Seigneur dit que mes brebis connaissent ma voix. Et lorsqu'on connaît la voix du Seigneur, alors on connaîtra aussi ses priorités. Apprenons à obéir au Seigneur dans les choses quotidiennes. Apprenons à obéir à Dieu chaque jour. C'est en obéissant à Dieu que nous apprendrons à obéir à sa voix, à entendre sa voix, à comprendre sa voix. La priorité, bien-aimée, nous devons la faire aussi en fonction du rôle que nous avons dans l'œuvre de Dieu. Il y a des femmes qui désobéissent à leur mari pour venir au culte. Mais le même Dieu qui nous demande de l'adorer, c'est le même Dieu qui demande aux femmes d'être soumises. Est-ce que le Seigneur peut se contredire? Bien souvent, la priorité de Dieu, nous la connaissons. Mais nous voulons utiliser la Bible pour inverser les tendances, pour inverser les priorités. Le Seigneur ne se contredit pas. Il nous a donné sa parole, mais il nous a aussi donné le Saint-Esprit. N'utilisons pas la parole, bien-aimée, pour amener les priorités dans notre avantage. La vie avec le Seigneur est une vie de sacrifice. Et les priorités de Dieu ne sont pas faites pour nous arranger. Les priorités de Dieu ne sont pas faites pour nous mettre à l'aise. Les priorités de Dieu sont faites pour nous rendre heureux selon le schéma de Dieu. Et pour nous rendre heureux, le Seigneur a trouvé bon qu'il fallait d'abord nous briser. Qu'il fallait d'abord nous amener dans l'humiliation. Qu'il fallait nous amener dans l'obéissance. C'est de cette manière-là que notre vie sera heureuse. La priorité de Dieu, bien-aimé, c'est pas de nous amener dans des situations où on va se sentir comme dans un bain bouillant, un bain bulle, je ne sais pas comment. La priorité de Dieu, bien-aimé, c'est que nous puissions être sauvés. Et pour ce salut-là, Dieu a établi un schéma. Et dans ce schéma, il y a des priorités fixées par Dieu lui-même. Et ces priorités-là, Dieu nous les révèle si nous acceptons d'être comme il veut. Nous sommes dans un monde instable, bien-aimés. Ne nous compliquons pas la tâche. Nous savons quelquefois combien de fois il y a des épreuves difficiles. Appliquons la parole de Dieu en faisant de Dieu lui-même notre priorité. Tu sais que tu as pris un engagement. J'expliquais à un frère, je donne cet exemple-là parce que je sais qu'il ne va pas m'en vouloir. On va me demander de prendre la voiture pour faire une distance. Alors que je sais que dans une heure, je dois venir prêcher, je ne peux pas le faire. La personne me dira peut-être, mais tu manques d'amour. Je manque d'amour si tu veux. Mais je sais une chose, c'est que la priorité là, c'est de faire le travail que Dieu m'a demandé. Quand j'aurai fini ce travail-là, je pourrai maintenant t'emmener là où tu veux. Je ne parle pas d'urgence, bien-aimé, où tu es avec ton enfant, il y a un problème grave, ce n'est pas ça que je parle. Je dis qu'en fonction de l'engagement que nous avons avec Dieu, nous devons assumer nos responsabilités en fixant nos priorités. Après, on pourra trouver toutes sortes d'excuses. Mais notre conscience nous condamnera. Et le Saint-Esprit, au-dedans de nous aussi, nous amènera à réaliser que nous avons fait le mauvais choix. Dieu nous aime. Et le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. Mais c'est de nous amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle il a donné son Fils unique à la croix. Comme le Seigneur a mis Dieu en priorité, bien-aimés, mettons le Seigneur aussi en priorité et prenons le temps pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Acceptons la volonté de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas chercher à nous enrichir, mais nous devons nous contenter de ce que Dieu donne. Beaucoup se sont trompés dans leur choix, tout simplement par des raisons financières. Or, la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Que le Seigneur soit notre priorité, bien-aimée, non pas l'argent, ni quoi d'autre, ni autre chose, bien-aimée. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, à qui d'autre confier notre vie? C'est toi qui es mort pour nous. Toi qui as sorti ton peuple de l'Égypte, c'est toi aussi qui nous as sortis du monde, Seigneur. À qui d'autre confier notre vie, Seigneur? Tant de fois nous avons fixé nos priorités, Seigneur de gloire, en fonction de nos propres désirs, en fonction de nos propres ambitions. Seigneur, tu vois encore aujourd'hui les choix qui sont en cours ou les choix qui nous restent à faire. Seigneur, prends la première place et inspire-nous, Seigneur, afin que ta volonté soit parfaite. Dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est toi que nous avons choisi de suivre. Et c'est ta volonté que nous voulons faire. Seigneur de gloire, donne-nous des oreilles de disciples, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, discerner quelle est ta volonté, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à nous attacher à ta parole, à obéir à ta parole à chaque instant, afin de comprendre quelle est ta volonté. Seigneur, tu nous as demandé de t'aimer plus que tout. Seigneur de gloire, et c'est notre volonté ce soir. Nous voulons t'aimer plus que tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à faire de toi notre priorité, notre premier amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, toi qui sondes le cœur, toi qui sondes le rein, connais-nous, Seigneur de gloire. Regarde nos motivations, Seigneur, au fond de nos cœurs, Seigneur de gloire, et dis-nous si nous sommes sur la bonne voie. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu as dit dans ta parole que ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Alors si nous savons que tu nous écoutes, nous avons la chose quelle qu'elle soit. Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul dans tous les siècles des siècles.